Voilà, peut-être vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a cet objet-là un peu étrange qui est présent ici. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une relique. Donc un petit bout d'os de qui? Sainte Thérèse de Lisieux. C'est pareil, hein? Ça va, avoir une relique de Sainte Thérèse de Lisieux, c'est une bénédiction. Et alors pourquoi elle est là particulièrement aujourd'hui? Parce que Thérèse est la patronne des missions. Aussi étonnant que cela soit, Thérèse est patronne des missions. Pourquoi? Parce qu'elle a porté pendant toute sa vie un certain nombre de missionnaires enfermés qu'elle était dans son Carmel. Elle avait un lien particulier avec deux missionnaires. Elle a remporté pour prier pour la mission. Et il y avait cette intuition forte de l'Église que la mission commence dans la prière. Donc voilà pourquoi on a cette chance d'avoir la relique de Sainte Thérèse. Thérèse, elle voulait être le cœur brûlant d'amour pour le monde, pour l'Église, ce qu'elle a essayé de réaliser dans sa vocation. Et quelque chose d'assez prophétique, je trouve, pour nous, de nous retrouver ce matin pour louer le Seigneur, pour réfléchir ensemble, pour célébrer l'Eucharistie. Voilà, on n'est pas très nombreux, on est dans notre Église, et il y a autour de nous ce monde qui reste dehors. Vous vous souvenez, hein, il y a 15 jours de l'homélie, ils en ouvrent les portes, mais entrez, entrez, que personne ne rentre. Voilà, et on est au cœur. Et peut-être qu'on a l'impression qu'on perd notre temps, ou que c'est pas utile la prière, ou je ne sais pas, et pourtant il y a quelque chose qui se joue là, de très important, dont on aura conscience, quand on sera là-haut, là, au ciel, quand on prendra conscience des fruits de notre prière. Bon, c'est pas le sujet au départ, mais enfin, c'est quand même un lien. Voilà. Je rentre dans le thème qui nous est proposé à réflexion ce matin. Je fais comme on est habitué, un petit topo à peu près d'une demi-heure, puis ensuite on se mettra en petite équipe pour partager ce qu'on a entendu, ce qui nous a interpellé, ce qui nous met pas à l'aise, ou qui nous donne du goût ou du désir. Je pars de ma petite expérience de missionnaire, parce que c'est le sujet. Voilà, je me souviens, il y a plus de 6 ans, d'ailleurs je suis arrivé au Brésil pour le 1er octobre, pour la fête de Sainte Thérèse, patronne des missions, c'était assez prophétique. Voilà, je suis arrivé là-bas, et puis au bout de 15 jours, la communauté qui m'a accueilli, brésilienne, là, ils m'ont embarqué avec eux pour commencer à faire du porte-à-porte. Aller frapper à toutes les portes dans un quartier de la ville pour annoncer Jésus-Christ. Alors vous imaginez, au bout de 15 jours, baragouinant un drôle de portugais teinté de français, tout de suite là, aller devoir frapper à toutes les portes pour dire bonjour, est-ce que vous l'avez compris ensemble, Jésus vous aime, etc. J'ai vraiment pris ça comme un bisoutage. C'était pas du tout le cas, parce que pour les Brésiliens, d'abord, c'est pas la culture brésilienne de vouloir faire du mal, enfin les voir provoquer ou mettre les gens mal à l'aise, c'est pas du tout, c'est pas leur culture. Et c'était pour eux. Ça leur colle tellement à la peau, l'idée que nous sommes des missionnaires tous, que c'était un honneur qu'ils me faisaient que dès le début de m'embarquer avec eux dans cette démarche. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce qu'avec eux, voilà, tout ce qui pouvait être un peu complexe, angoisse, etc., il n'y a pas eu trop le temps de se poser des questions. C'est vrai que c'est assez facile d'être français là-bas parce que quand vous frappez à la porte et que vous allez annoncer Jésus-Christ, et en plus vous êtes français, vous êtes le seul français des 1000 km à la ronde, il y a un petit côté waouh, entrez. Enfin, c'est d'abord, c'est un peu original. C'est plus le cas ici, pas très grave. Voilà. Donc je voudrais avec vous ce matin, réfléchir donc sur ce thème qu'il m'a été demandé d'approfondir, qui est cette expression de disciple missionnaire que, pour ma part, j'ai découvert là-bas, au Brésil, hein, et qui, peut-être pour vous, est une expression que, depuis quelque temps, vous entendez circuler dans les textes, dans les interviews, peut-être dans les homélies, hein, et qui est effectivement une expression assez nouvelle. Cette expression, elle vient du pape François. Quand les papes Jean-Paul II, souvenez-vous, Benoît XVI parlait plus volontiers de nouvelle évangélisation, c'était vraiment la thématique de Jean-Paul II, nouvelle évangélisation, on rentre dans une nouvelle ère, nouvelle évangélisation. Le pape François, quant à lui, est plutôt adepte d'une autre expression, disciple missionnaire. Il l'emploie très souvent, dans ses discours, dans ses lettres, en particulier dans la lettre apostolique Evangelii Gaudium, peut-être vous l'avez lu, hein, la joie de l'Évangile. Je citerai un passage tout à l'heure, voilà, cette expression. Alors, pourquoi le pape François est adepte de cette expression plutôt que de l'autre? C'est parce que il vient d'un pays d'Amérique latine, il vient de l'Argentine, qui était encore peu un pays dit, entre guillemets, de mission. Voilà. Le mot mission est un mot particulièrement marquant pour lui, parce qu'il est d'un pays de mission. Voilà, vous le savez probablement, il y a des pays dits de mission, c'est là où vont les missionnaires, et puis il y a des pays qui sont au contraire les pays de missionnaires, c'est ceux qui envoient les missionnaires. Alors pendant très longtemps, ben l'Argentine était un pays de mission, c'est là qu'allaient les missionnaires. Et la France était un pays de missionnaires, là d'où partaient les missionnaires. Alors forcément, en fonction de là où on se trouve, on voit les choses différemment. Le pape François, lui, il est né, il a grandi dans un pays où il a vu des générations de missionnaires venir d'Europe pour annoncer Jésus-Christ. Il a été plongé dedans quand il était petit, si vous voulez. Alors que nous, depuis qu'on est petit, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à voir des missionnaires partir. Alors, je ne sais pas si vous en avez dans vos familles, mais moi, mes oncles sont partis comme missionnaires en Afrique, et donc j'ai été bercé dans cette légende familiale de nos grands-oncles avec la grande barbe blanche, là, qui partaient, qu'on ne voyait plus jamais, puis on priait pour eux. Et donc, pour moi, le mot mission, ça a été un mot associé à étranger. Probablement pour nous aussi, puisqu'on est dans cette perspective-là. Alors que le pape François, lui, c'est quelque chose de très concret. Il l'a expérimenté dans son peuple, dans sa chair. Et donc nous sommes invités, vous sentez bien ça depuis quelque temps, c'est pas qu'avec le pape François, à changer de perspective, à sortir de cette idée, et à nous et à eux, nous on envoie, eux ils reçoivent, puisque objectivement aujourd'hui, c'est le contraire, non? Regardez le nombre de prêtres africains, surtout, dans notre diocèse. Et combien il y a de prêtres du diocèse de Versailles en Afrique? Un. Voilà. Il y a vraiment un changement de facto qui est là sous nos yeux, et que peut-être nous n'avons pas intégré, nous. On le voit, mais on ne l'a pas intégré. C'est-à-dire que nous sommes clairement devenus un pays de mission. Nous, là où vont les missionnaires, et donc évidemment nous sommes invités à être nous aussi des missionnaires. Jusqu'à maintenant, là ça m'a assez amusé parce que quand on a préparé le week-end, ce week-end missionnaire, qu'on est en train de vivre ensemble, on en parlait avec le père Paul, et le père Paul me dit « Ah, c'est pour le week-end, mais vous ne parlez pas du tout de la mission là-bas, en Afrique, en Asie, etc. » Voilà, lui, il a 83 ans, je sais très bien, vraiment dans cette idée que la mission c'est là-bas. Et peut-être que la plupart d'entre nous, c'est ça la mission. Donc, faire un week-end missionnaire, quel sens ça a? Alors, on pense qu'il faut qu'on fasse une quête pour l'émission, on la fera, vous inquiétez pas, le week-end prochain, et qu'on prie pour eux, qu'ils voient que des petits faisaient un bol de riz pour envoyer de l'argent à nos oncles missionnaires, maintenant ça change. Ou on le voit, gloire à Dieu, ou on passe à côté, c'est embêtant. Nous sommes devenus un pays de mission. Alors, revenons, si vous voulez bien, à cette expression « disciple missionnaire ». La première fois que cette expression apparaît dans un document officiel de l'Église catholique, c'est en 2007, à Aparecida. Vous savez ce que c'est qu'Aparecida? C'est le sanctuaire marial brésilien. Je viens d'entendre à la radio ce matin que c'était le troisième plus visité du monde. Un, allez-y. Non, Saint-Pierre de Rome. Deux, Guadalupe, Mexique. 3. Aparecida. 4. Lourdes. Voilà, Aparecida, donc c'est le lieu. C'est assez merveilleux parce qu'à Aparecida, il n'y a pas eu d'apparition. Ils ont trouvé une statue et puis il y a eu des miracles. Et pourtant, il y a une foi très forte. Nous avons la chance d'avoir tellement d'apparitions en France. Peut-être on n'en profite pas assez. Fermez la parenthèse, ce n'est pas le sujet ce matin. Donc voilà. À Aparecida, en 2007, il y a eu la conférence de tous les évêques d'Amérique du Sud. Des Caraïbes qui se retrouvent, c'est une habitude dans l'Amérique du Sud, de se retrouver régulièrement. Et au terme de cette rencontre, ils ont produit un document de référence pour eux, qui a été fortement inspiré par un certain cardinal Bergoglio. Il dit quelque chose? qui est devenu quelques années après le pape François. Hein, c'est vraiment lui qui est l'inspirateur de ce document. Pas étonnant qu'après on retrouve ses idées ailleurs et autrement. Hein. Et ce document a pour titre, écoutez bien, « Disciple missionnaire de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui ». Voilà. C'est la première fois que l'expression « disciple missionnaire » devient comme ça un truc officiel, vous voyez, dans un titre de document de l'Église. « Disciple missionnaire de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui ». Alors, ce qui me semble intéressant, c'est que justement, on commence en voyant ces deux qualificatifs, ou ces deux précisions qu'apporte le document à notre concept. Hein. C'est pas seulement disciple missionnaire, c'est disciple missionnaire de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui. Donc, première précision de Jésus-Christ. Elle nous rappelle qu'il ne s'agit pas d'être disciple missionnaire tout court, mais disciple missionnaire de quelqu'un, en l'occurrence de Jésus-Christ. Alors, pour ce qui relève du disciple, ça paraît évident. Le disciple, le discipulus, c'est celui qui se met à l'école d'un autre. C'est ça que ça veut dire, hein, au sens premier du terme. C'est celui qui a un maître, donc qui est assis au pied du maître, un peu comme Marc, comme Marie, qui est assis au pied de Jésus pour écouter son maître l'enseigner. Donc si on parle de disciple, ça nous paraît évident que c'est disciple de quelqu'un. Et pour nous, le mot disciple est tellement associé à l'Évangile que quand on pense à disciple, on pense évidemment disciple de Jésus-Christ. D'ailleurs, on ne le dit pas, ça paraît évident. Quand on parle des disciples, on pense que c'est les disciples de Jésus-Christ. Donc pour cette partie-là, c'est à peu près clair. Quant au missionnaire, il est par définition celui qui a reçu une mission. Donc pour recevoir une mission, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait donné la mission. C'est pas évident aussi. Je ne peux pas être missionnaire de moi-même. Je suis envoyé en mission par quelqu'un. J'ai reçu une mission. Et cette mission, en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, je l'ai reçue de Jésus-Christ. Alors, c'est facile à comprendre que nous sommes des missionnaires de Jésus-Christ, mais il faut reconnaître que parfois nous sommes peut-être plus missionnaires de notre paroisse que de Jésus-Christ. Si la finalité de ce week-end missionnaire est pour nous que les gens que nous rencontrerons sur le marché ou ailleurs viennent à la messe, mettent leurs enfants au cathé ou s'inscrivent dans tel ou tel groupe de la paroisse, si les arguments que nous mettons en place pour parler avec ceux que nous rencontrons, c'est notre paroisse est dynamique, notre curé est top, notre vicaire est sympa, alors on ne prêche pas pour Jésus-Christ, on prêche pour notre paroisse. Alors on est missionnaire de notre paroisse. Alors ce qu'on voudrait, c'est que les gens rentrent. Est-ce que c'est ça, la mission qui nous est confiée? Voilà un premier point d'attention que peut-être vous pourrez partager les uns avec les autres. Nous sommes missionnaires de Jésus-Christ. Deuxième précision que nous donne ce texte, titre, hein, « Pour que nos peuples aient la vie en lui ». Il ne s'agit pas d'être disciple missionnaire comme ça, pour plaisir ou par devoir. Il s'agit d'être missionnaire pour que nos peuples, disent les évêques, pour que tous les habitants des Langlois, Maurepas, Coignères, Saint-Rémy, dirons-nous, soient rassasiés dans leur soif spirituelle par la vie même du Christ. Autrement dit, pour qu'ils trouvent la vie en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, par lui, avec lui, en lui, ça dit quelque chose? Comme nous le disons à l'Eucharistie. Encore faudrait-il qu'ils aient soif. Est-ce que vous avez soif, là, ceux qui sont dehors? On peut se poser la question, non? Est-ce qu'ils ont vraiment soif pour pouvoir boire, puisqu'on demande de leur donner la vie de Jésus-Christ? La question peut se poser. Il me semble que c'est le cas. J'ai été intéressé, et je vous partage quelque chose qui me réjouit, parce que j'ai reçu un coup de fil là il y a 15 jours d'un monsieur qui fait partie d'une commission épiscopale. C'est sérieux. Il y a des commissions épiscopales qui sont chargées d'alimenter la réflexion des évêques, chacun sur des sujets un peu différents. Il y en a une qui s'est créée et qui s'appelle Nouvelle Croyance. Elle s'est interrogée en disant, mais comment se fait-il qu'il y ait une telle soif spirituelle, au sens hyper large, dans notre monde contemporain, qui prend des tas de formes différentes, et que nous, l'Église catholique, qui avons un trésor, qui est la vie de Jésus-Christ, qui peut rassasier les cœurs, on n'arrive pas à rejoindre cette soif spirituelle. Et donc, ils travaillent sur ce sujet. Ça veut dire qu'il y a une vraie problématique. Et donc, ils m'ont demandé de venir parler avec eux de la piété populaire, parce qu'ils pensent que c'est un des lieux où nous pouvons, un des moyens où nous pouvons retrouver cette rassasier cette soif spirituelle. Oui, nos peuples, nos voisins sont en quête, en soif. Et nous avons un trésor à l'offrir. Disciples missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui. Donc, le but du être disciple missionnaire, le but, c'est de permettre à chacun, d'une manière ou d'une autre, de vivre de la vie même du Christ. Ça, c'est le but. Le moyen, comment est-ce qu'on va le faire? Comment ça va se passer? Eh bien, le mode opératoire du disciple missionnaire, c'est la contagion. C'est la contagion. Le disciple missionnaire, c'est celui qui vit dans une telle intimité avec Jésus-Christ que ça se voit, que ça donne envie, que c'est contagieux. Le père Guy Gilbert, ça veut dire quelque chose? Bon. Il a cette phrase que j'aime bien citer. Vivez d'une telle façon qu'à votre seule façon de vivre, on pense que c'est impossible et que Dieu n'existe pas. On vit d'une telle manière, ça on sent bien que c'est ça, hein, que la mission commence là. On vit d'une telle manière que les gens autour de nous devraient se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce que ça change? Il y a quelque chose d'étonnant en nous. C'est ça que j'aime bien ce mot contagion. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte que ça contagion, que ça contagieux. Et puis ce que j'aime bien de la contagion, c'est que c'est le phénomène incontrôlable. Ce n'est pas la stratégie, ce n'est pas la technique. Alors bien sûr, nous ne pourrons pas nous passer d'un peu d'organisation. Ça me donne l'occasion de remercier l'équipe qui a organisé ce week-end missionnaire depuis des mois. Ils travaillent pour que tout soit organisé au mieux. Ça, c'est l'organisation, c'est nécessaire. Et on voit bien que ça va au-delà, que toutes les techniques ne suffiront pas. C'est la contagion qui passe à travers nous, évidemment de l'Esprit-Saint qui nous habite. Les formations à la mission, les techniques de réorganisation des paroisses, les manuels de survie pour curer, ça, il y a des bouquins comme ça qui s'appellent comme ça, sont à la mode. Ils sont sûrement utiles et précieux, mais ils ne pourront jamais se substituer au temps consacré à la prière silencieuse, à entretenir l'intimité avec Dieu, à nous laisser remplir de la vie même du Christ comme Sainte Thérèse de Lisieux. Ne l'oublions jamais, ce n'est pas d'abord nous qui évangélisons, c'est le Christ qui évangélise en nous, à travers nous. Matthieu 10, 20, je cite Jésus, « Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Voilà, d'où l'importance que nous soyons habités profondément par l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse agir en nous. Voilà pourquoi on va aller à la chasse à tous les paroissiens qui ne sont pas confirmés, mes amis. On va parler à la messe tout à l'heure. Il faut que tous nos paroissiens soient confirmés pour qu'ils puissent laisser l'Esprit-Saint habiter en eux et vraiment faire ce travail de contagion. D'où l'importance, vous le sentez bien, d'être aussi disciple lorsqu'on le se veut missionnaire. Les deux vont ensemble, on y arrive. Je reviens à Parisida. En 2007, le pape Benoît XVI était là, c'est lui qui a ouvert l'assemblée des évêques d'Amérique du Sud, et dans son discours inaugural, il a rappelé quelque chose d'évident, mais qu'il faut redire de temps en temps, que on n'est pas ou disciple ou missionnaire, et qu'un disciple est forcément missionnaire, et qu'un missionnaire est forcément disciple, que les deux vont profondément ensemble. Je cite le pape. Qui se fondent sur la parole de Dieu se sont poussés à porter la bonne nouvelle du salut à ses frères. Disciples et missionnaires sont comme les deux faces de la même pièce. Lorsque le disciple est amoureux du Christ, il ne peut qu'annoncer au monde que lui seul nous sauve. Amoureux du Christ. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser un amoureux, quelqu'un qui est amoureux de sa fiancée, mais c'est extraordinaire quoi. Il jubile, ça sent, ça, c'est contagieux, on a envie de partager sa joie, il y a quelque chose de merveilleux, il parle de sa fiancée, il n'arrête pas. Est-ce que vous avez croisé quelqu'un passionné par une cause, une conviction, un projet? C'est merveilleux. C'est contagieux, ça donne envie d'être associé. Alors la question nous est posée, est-ce que l'amour que nous portons au Christ est de cette nature? Est-ce que nous sommes amoureux du Christ comme on a pu l'être de notre, qu'on peut l'être encore aujourd'hui, de son mari, de son épouse, de ses enfants, d'une cause, etc. Quelle est la qualité de ce qui nous habite? Est-ce que ça nous transporte? Est-ce que ça nous enthousiasme? J'aime bien le mot enthousiasmé, hein. Vous savez que enthousiasme, ça veut dire en Dieu, Théos. Est-ce qu'on est habité par Dieu, hein? Si je vous parle de Jésus d'une manière monotone et factuelle, alors là, contagion zéro. Si je vous en parle avec enthousiasme, avec joie, avec les yeux qui pétillent, avec le sourire aux lèvres, si ça m'habite, c'est contagieux. Vous sentez bien. C'est pour ça, petite page de pub, que dans les parcours alpha, on demande à ceux qui font les topos de ne pas réciter un savoir sur Dieu, mais de témoigner de leur relation à Dieu qui les fait vivre. Et c'est ça qui touche les cœurs, évidemment. Je reviens encore à mes évêques sud-américains. S'ils ont inventé ce concept de disciples missionnaires, donc il y a une vingtaine d'années, c'est suite au constat des mutations rapides et radicales que connaissent nos sociétés en ce début du XXIe siècle. Face à cette réalité nouvelle, ils se sont demandé si l'Église a encore quelque chose à dire. Voilà, le monde a tellement changé, est-ce que l'Église a encore quelque chose à dire à nos contemporains, ou bien est-ce qu'elle doit se contenter de s'assurer des niches protectrices et consolatrices? Voilà, entre nous, bien au chaud, entre gens qui se connaissent, qui se reconnaissent. C'était bien le thème de l'homélie il y a 15 jours, lors de la fête patronale. Ouvrez les portes, sortir. On sent bien qu'il n'y a que deux options, hein. Ou bien on opte pour le repli identitaire dans nos tours d'argent. Alors le catholicisme n'est plus catholique, parce que le sens littéral du mot catholique, c'est universel, pour tous, pas que pour ceux qui sont dans l'Église, hein. Ou bien on devient une Église en sortie, encore une expression du pape François, pas une Église qui reste dans ses murs. Il n'y a pas de troisième terme, c'est ou l'un ou l'autre. Être disciple missionnaire, on avance, ça ne relève pas de l'acquis, mais de l'inné. Ok ? Je ne deviens pas disciple missionnaire un beau jour, par choix, ou bien parce que j'ai reçu une charge, ou bien une mission. On n'endosse pas le costume de disciple missionnaire. Je suis disciple missionnaire de naissance. Inné. De naissance spirituelle. Vous avez compris. C'est par le baptême que je suis devenu disciple missionnaire. Il est fort probable que je n'en avais pas conscience quand j'étais baptisé, surtout pour ceux qui ont été baptisés bébés comme moi. Mais voilà, c'était dans le pack reçu au baptême. On est tous devenus disciples missionnaires. Alors, autre manière de comprendre, on peut aussi dire que le disciple missionnaire, ça relève de l'état et non de la fonction. Petit exemple pour comprendre la différence entre état et fonction. Prêtre, c'est un état. Curé, c'est une fonction. Ça va? Je suis curé de cette paroisse parce que j'ai reçu la fonction de curé de cette paroisse donnée par l'évêque. Ça durera un temps, puis après ça sera terminé. Ok? Par contre, je suis prêtre à vie. Je partage le même état que le père Corentin, mais pas la même fonction. Lui, il n'est que vicaire. Comme ça, enregistré pour l'écouter. Hein? Voilà. L'état et la fonction. Eh bien, disciple missionnaire, c'est l'état que nous partageons tous, vous et moi. Par le baptême, on a le même état, disciple missionnaire. Et on n'a pas la même fonction. Certains sont curés, d'autres sont animateurs de chant, d'autres sont catéchistes, d'autres sont sacristains, d'autres font autre chose, on a des fonctions différentes. Mais on a tous le même état, disciple missionnaire. Et c'est comme disciple missionnaire qu'on exerce ces fonctions qui sont les nôtres. Si disciple missionnaire, cela relève de l'inné et non de l'acquis, de l'être et non de la fonction, vous sentez bien pourtant, ça ne règle pas la question. De fait, on peut être d'un certain état sans en vivre. Voilà pourquoi le pape François nous invite, nous exhorte à déployer cet état baptismal, disciple missionnaire, qui est le nôtre. Je vous cite donc un passage de cette encyclique du pape, Evangelii Gaudium, numéro 120. Écoutez bien, chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Et il serait inadéquat de penser un schéma d'évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. Tous les baptisés, dit le pape François, ont effectivement reçu tous du Christ le même ordre de mission, comme les apôtres à la finale de Saint-Marc, aller par le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est bien là le problème. Vous le sentez bien, mes chers amis. C'est que l'Église, elle est comparable au Stade de France un soir de match de foot de Coupe du Monde. Et vous avez d'un côté 80 000 spectateurs assez bien tranquillement, et qui regardent 11 autres qui sont épuisés à force de courir après un ballon, et qui aimeraient bien se reposer un peu pour souffler. Autrement dit, la difficulté de notre Église, c'est que vous avez d'un côté la grande masse des catholiques qui viennent à la messe tous les dimanches, qui payent leur donnée de l'Église, qui invitent une fois de temps en temps leur curé à dîner, et qui estiment que c'est suffisant, qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et d'autre côté, un tout petit groupe de cathos qui n'arrêtent pas de courir à droite et à gauche et qui s'épuisent pour essayer de garder l'Église ouverte et d'être missionnaires et qui aimeraient bien se reposer un peu. Comment inverser? Comment mettre les 80 000 sur le terrain et les 11 dans les gradins? C'est ça ce que voudrait provoquer le pape François. Et moi aussi, une paroisse. L'inversion. C'est que nous, les cathos, avons trop facilement tendance à penser que pour faire un truc dans l'Église, soit il faut être compétent, avoir des diplômes, être formé, etc. Soit il faut être missionné, avoir reçu une lettre avec un tampon signé par le Père Maximien. Et donc on en vient à penser que le cathé, l'animation des chants, la décoration florale, etc., c'est pour les pros de la foi, et pas pour nous. Et encore plus pour ce qui relève de l'évangélisation. Hier matin, le Père Corentin nous avait invités à aller sur le marché, à annoncer Jésus-Christ, et il avait invité la communauté Annuncio. Ah ben ça, c'était trop, alors là, eux, ils savent faire. Donc nous, on s'assoit, on les regarde, et on les laisse passer, allez-y. Hein. Et puis, courage, j'ai un truc pour vous. Hein. Voilà. On pense qu'il y a les pros de l'évangélisation qui ont la compétence et la mission, et que nous, on n'est pas concernés. Mes chers amis, il n'y a pas deux catégories de cathos dans l'Église. Il n'y a pas d'un côté les baptisés quelconques, et de l'autre côté les baptisés de première catégorie, les pros de l'évangélisation de la catéchèse. Il n'y a pas deux catégories de cathos, parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Comme le rappelle saint Paul en Éphésiens 5, 4 à 7, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par Jésus-Christ. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, la même grâce. Nous avons tous reçu le même Esprit Saint. C'est-à-dire, nous avons les mêmes capacités, la même force et la même mission. Jésus n'a pas dit à certains apôtres, à la fin de l'évangile de Matthieu, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Vous là, les trois là, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Puis vous les autres, laissez-les aller, puis restez tranquillement à la maison, préparez le dîner, quand ils viendront, ils seront reposés. Il a dit à tous de la même manière, « cette même mission, aller de toutes les nations. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'un côté les disciples missionnaires, ceux qui ont reçu une mission, les disciples gestionnaires, ceux qui gèrent la boutique. Et qui restent tranquillement dans l'église en attendant que ça se passe. Nous avons tous reçu le même baptême, nous sommes tous disciples missionnaires. Voilà. Alors je développe pour terminer l'articulation et la complémentarité entre ces deux concepts, disciples et missionnaires, qui sont comme les deux faces de la même pièce, comme le disait le pape Benoît XVI. Le disciple, c'est celui qui écoute, le missionnaire, c'est celui qui parle. Le disciple, c'est celui qui apprend, le missionnaire, c'est celui qui enseigne, témoigne. Le disciple, c'est celui qui reçoit, le missionnaire, c'est celui qui donne. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, souvenez-vous, lorsque Jésus appelle pour la première fois ses apôtres, ils montent dans la montagne, et le texte dit, Jésus les appela pour être avec lui, puis pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. C'est le texte. Pour être avec lui, disciple. Puis pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle, missionnaire. D'abord disciple, ensuite missionnaire. Logique. Je ne peux pas donner si je n'ai d'abord reçu. Je ne peux pas parler si je n'ai d'abord écouté. Je ne peux pas enseigner si je n'ai d'abord appris. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour les apôtres. Ils ont passé 3 ans à l'école de Jésus, à écouter, à apprendre, à recevoir. Et puis ensuite, quand Jésus est monté au ciel, ils sont partis de toutes les nations. Et ils ont été pleinement missionnaires. C'est ce que nous racontent les actes des apôtres. Et nous aurons l'occasion d'en prendre conscience. Cette année, en essayant de lire ensemble, avec le parcours Mission Espérance, lire ensemble les actes des apôtres. Et bien de la même manière, chacun d'entre nous a d'abord reçu, pendant des années, au caté, à la maison, avec ses grands-parents, préparation au sacrement, à l'aumônerie, on a reçu. Et chacun d'entre nous vit pleinement son état de disciple. J'imagine aujourd'hui, en continuant à recevoir, bien vous êtes là ce matin pour recevoir encore, ça continue, en entretenant sa vie de prière, etc. Voilà, on a reçu. D'abord recevoir, puis donner. Il est venu le temps pour vous, maintenant, de basculer du côté des missionnaires. Alors, il ne faudrait pas trop vite couper en deux temps, hein. Un disciple, puis après missionnaire. C'est bien les deux en même temps, disciple et missionnaire. Les deux sont profondément liés. On est invité à être sans cesse et disciple et missionnaire. Le véritable disciple, celui qui aime Jésus, n'a qu'une envie, c'est d'annoncer cet amour que Jésus a pour lui et devient missionnaire. En annonçant Jésus, il découvre combien celui-ci fait de grandes choses dans la vie des autres et cela fait grandir son amour pour Jésus, son désir de toujours mieux le connaître comme disciple. Disciple, missionnaire, l'un ne devrait pas aller sans l'autre. Dans quelques instants, on prend un petit temps pour partager les uns avec les autres sur comment ça nous parle ou pas, disciple missionnaire. Parce qu'il faut bien reconnaître qu'on a un peu de mal à l'idée d'être missionnaire. On a un peu peur de sortir de chez soi pour aller vers des inconnus et pour leur dire « Jésus vous aime » ou autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué comme ça? Tout simplement parce qu'on nous a bassiné les oreilles avec l'idée que parler de sa religion, c'était mal. Que la laïcité, ça veut dire « ferme ta gueule ». Pardon. Qu'il faut respecter la conscience des autres. Et qu'il ne faut surtout pas leur parler de ses convictions. On nous a appris ça, non? On a grandi là-dedans. C'est du grand n'importe quoi. Pour deux raisons. Un, c'est de prendre les autres pour des idiots que de penser comme ça. Il m'est arrivé un truc un peu étonnant à Sartrouville. Quand j'étais vicaire à Sartrouville, un jour, il y a un jeune qui vient de frapper à la porte du presbytère. Je voudrais vous parler. Alors, j'étais un peu étonné parce qu'il était avec une grande jalaba, une grande barbe, etc. Je dis, ah. Donc, je l'ai reçu. Il a passé 1 heure à essayer de me convaincre que sa religion, l'islam, c'était la bonne religion et que je me convertisse. Est-ce que vous avez devant vous un converti à l'islam? Non. C'est pas parce qu'il me parlait de sa foi que j'ai devenu musulman. C'est pas parce que je vais aller parler de ma foi à des amis au bureau, dans la rue, etc., qu'ils vont devenir chrétiens. Ils sont libres. Non ? C'est... Il faut respecter leur capacité à avoir un discernement. Bon. Deux, c'est considérer que croire en Jésus n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Si ça n'apporte rien, c'est normal que je n'en parle pas. Supposons que vous ayez reçu une info, un truc, sur comment avoir des places gratuites pour tel concert ou pour tel match de foot, et que vous croisiez un ami. Vous allez lui passer l'info, ou vous allez vous taire parce que lui dire cette info, ça risquerait de le forcer à aller au match. Ben non. Je lui passe l'info, c'est une bonne nouvelle. Si tu as envie, tu sais que tu peux faire ça. Mais ça ne force pas l'autre à aller au match de foot ou aller au concert. Il est capable de discerner s'il y va ou s'il n'y va pas en fonction de ses capacités. C'est pas parce que je parle de Jésus-Christ à quelqu'un que pour autant il va adhérer. Je respecte pleinement sa conscience en lui disant ce qu'il me fait vivre. Alors voilà, je termine ce petit topo en lisant avec vous la prière que le pape François a écrite à l'occasion de ce mois missionnaire extraordinaire. Je vous invite à vous lever. On termine ensemble en écoutant cette prière que le système va nous lire.
Je termine en reprenant les mots. Dieu notre Père, ton Fils unique Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts a confié ses disciples sa mission. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Tu nous rappelles que par le baptême, nous participons tous à la mission de l'Église. Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d'être témoins de ton Évangile, courageux et ardent, pour que la mission confiée à l'Église soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière au monde. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'amour sauveur et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Béni soit Saint-Esprit.